RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel.
Julien Coquel-Rohen.
Et Gaëtan Plenet pour le journal. Le Qatar confirme geler ses efforts de médiation entre Israël et le Hamas.
Ils ne font pas preuve de suffisamment de sérieux dans les négociations pour une trêve à Gaza, selon l'Émirat. À Gaza, où 30 personnes ont péri dans deux frappes israéliennes ce matin, selon la défense civile de l'enclave. Reportage à suivre dans l'État américain du Michigan, remporté, comme tous les autres États clés, par Donald Trump lors de la présidentielle cette semaine. Au détriment de Kamala Harris, on tentera de comprendre pourquoi. Dans ce journal également, une nouvelle batterie de règles liberticide pour les Libyennes, annoncé par le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli. Les présidents français des deux chambres du Parlement attendus en Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer en crise depuis des mois. Le début demain de la COP29 sur le climat, avec au menu notamment le coût des dégâts entraînés par les catastrophes climatiques à répétition. Et puis les derniers au revoir à leurs proches pour quelques 40 skippers. Tout à l'heure, ils prendront le départ du Vendée Globe, la célèbre course à la voile en solitaire.
Une nouvelle manifestation hier à Jérusalem, non loin de la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Les familles et proches des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre dernier se sont à nouveau donné rendez-vous avec cette fois une source d'inquiétude supplémentaire. Le Qatar a annoncé suspendre sa médiation entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. Le pays leur reproche de ne pas faire preuve de suffisamment de sérieux et de volonté aussi dans la quête d'une trêve à Gaza. Trêve dont est censé découler un accord sur la libération des otages. Alors forcément, leurs proches craignent que cette perspective ne s'éloigne davantage encore après cette décision de l'Émirat, l'un des trois médiateurs dans ce dossier avec les États-Unis et l'Égypte. Bonjour Michel Paul.
Bonjour Gaëtan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI en direct de Jérusalem. Michel, le Qatar suspend donc sa médiation pour l'instant, mais en Israël, on estime que Doha n'a pas dit son dernier mot pour autant.
Oui, en effet, au sein de la coalition gouvernementale israélienne et en particulier à son extrême droite, on se félicite de la décision du Qatar. Il s'agit, dit-on, d'un développement qui peut avoir un impact majeur sur le conflit à Gaza, mais aussi dans la région tout entière. Et ce matin, les commentateurs soulignent ici que la décision de Doha est toujours réversible. En d'autres termes, Qatar n'a pas totalement retiré son épingle du jeu. Les Qatariens ont lâché du lest à la demande de l'administration Biden, mais il reste à voir si les dirigeants du Hamas vont effectivement quitter la capitale du Qatar pour une nouvelle destination. Le but de l'opération est de promouvoir un accord qui permette la libération d'un certain nombre d'otages, notamment ceux qui détiennent également la nationalité américaine. Plusieurs médias en Israël soulignent que les responsables israéliens ne fléchiront pas leur position avant l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump. Et en attendant, le Premier ministre Benjamin Netanyahou propose une nouvelle approche, offrir 5 millions de dollars pour chaque otage libéré et permettre aux ravisseurs de se réfugier dans un pays tiers.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem. Et à Gaza, la défense civile annonce ce matin que 30 personnes ont perdu la vie dans deux frappes israéliennes contre des maisons. L'une à Jabalia dans le nord, 13 enfants parmi les victimes. L'autre dans le quartier Al-Sabra de Gazaville, où des personnes sont également portées disparues. L'armée israélienne qui continue aussi de frapper le Liban. Au moins 33 morts sur la seule journée d'hier, selon le ministère libanais de la Santé, après des raids dans le sud du pays, mais aussi dans l'est, dans la région de Baalbek.
Aux États-Unis, la victoire est encore plus écrasante qu'elle ne l'était déjà pour Donald Trump.
Selon CNN et NBC, il a également remporté la présidentielle dans l'Arizona, état du sud-ouest traditionnellement républicain, c'est vrai, mais qui était tombé dans l'escarcelle démocrate en 2020 avec Joe Biden. Eh bien, pas cette fois visiblement. Et c'est un 7 sur 7 pour Trump qui l'emporte dans l'ensemble des états clés. L'Arizona, je le disais, mais aussi la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Nevada et le Michigan.
Le Michigan où non seulement Kamala Harris a perdu, mais où elle a fait moins bien que les précédents candidats démocrates.
Oui, à part peut-être Joe Biden qui l'avait emporté en 2020, mais pas cette fois donc pour Kamala Harris. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, mais quand on écoute les électeurs de cet État, c'est surtout la conséquence d'un certain sentiment de dégagisme. Reportage de notre envoyé spécial à Détroit, Abla Junaidi.
Séjour de marché à Détroit. Frais et ensoleillé, un temps parfait pour Colson. Cet habitant africain-américain travaille depuis des décennies sur les marchés et Kamala Harris, comme les autres, n'ont pas sa confiance. Il n'a pas voté.
Kamala Harris, elle aurait dû s'attaquer à Donald Trump et son bilan en face. Elle aurait dû lui dire « Vous avez eu le pouvoir pendant 4 ans et vous n'avez rien foutu. Vous ne devriez pas être réélu. » De toute façon, je ne crois pas qu'on laisserait une femme noire gagner. On a eu la chance d'avoir Obama et j'étais content. Mais une femme, c'est trop pour certains.
John, un fermier du sud du Michigan, a vu ses clients réduire peu à peu la taille de leur panier. La hausse des prix, il l'attribue à l'administration sortante.
Je n'ai pas voté. Je n'aime pas ce que l'économie est devenue. Et c'est en grande partie à cause de ce qu'elle et Joe Biden ont fait. Donc je ne pense pas qu'avec elle comme présidente, l'économie retrouverait sa vigueur passée.
Sabrine, une jeune femme voilée, a voté pour Jill Stein, la candidate écologiste, pour ne pas voter Kamala Harris.
Je ne voulais pas être impliquée avec quelqu'un qui soutient le génocide essentiellement, mais je devais aller exercer mon droit de vote tout de même. Voilà pourquoi j'ai voté pour Jill Stein.
La guerre d'Israël à Gaza et au Liban, soutenue par Washington, a pesé lourd dans la décision de nombre d'électeurs arabes et musulmans du Michigan. Abla Junaidi, Détroit, RFI.
Et aujourd'hui, c'est à Maurice qu'on vote.
Élection législative anticipée et la campagne n'a pas été de tout repos pour le pouvoir, marquée notamment par une affaire d'écoute téléphonique. On verra bien ce qu'en disent les électeurs. Ils sont 1 million à être appelés aux urnes depuis quelques heures maintenant. Pas de surprise en Côte d'Ivoire. Pascal Affine-Guessant a été réélu président du FPI hier, alors que le parti tenait son congrès ordinaire à Yamoussoukro. C'est donc lui qui portera les couleurs du FPI pour la présidentielle d'octobre 2025.
Renforcer les normes sociales et morales en Libye, c'est l'objectif du ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli.
Et pour ça, Imad Trabelsi a annoncé cette semaine une série de mesures visant essentiellement les femmes et leur liberté. Alors on y retrouve notamment une obligation renforcée du port du voile qui s'appliquera dès l'âge de 9 ans. Le ministre a également annoncé le retour d'une police des mœurs le mois prochain pour veiller à la bonne application de ces mesures que nous résume Ouda Ibrahim.
Parmi ces mesures, selon l'officiel libyen, en plus du port obligatoire du voile, l'interdiction faite à la femme de voyager sans être accompagnée d'un homme ou sans l'autorisation d'un homme de sa famille. Il y a aussi l'interdiction de la mixité dans les cafés et les lieux publics. Les mesures touchent également la façon de couper les cheveux ou de s'habiller afin de respecter, selon lui, la spécificité de la société libyenne. De mesures de suivi seront appliquées dans les rues et au-delà, le contenu des réseaux sociaux seront contrôlés et les auteurs de textes jugés inconvenants aux mœurs seront poursuivis. Ces déclarations ont immédiatement divisé l'opinion publique. Certains s'y sont montrés favorables, mais une majorité a critiqué l'attitude du ministre qui, je cite, « au lieu de s'occuper de la sécurité des Libyens, s'attaque à leur liberté ». C'est le cas de Laila Ben Khalifa, candidate à l'élection présidentielle, qui accuse le ministre de vouloir gagner la sympathie des intégristes. Quant aux ONG des droits de l'homme, elles étaient unanimes à dénoncer des déclarations qui ne respectent pas la Constitution et les lois libyennes.
Ouda Ibrahim.
En France, après le ministre de l'Outre-mer et avant le chef du gouvernement, c'est au tour de la présidente de l'Assemblée nationale et de son homologue du Sénat de se rendre en Nouvelle-Calédonie.
Les territoires français du Pacifique Sud, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher y sont attendus aujourd'hui et doivent y rester 5 jours. L'objectif, c'est de replacer l'État à la table des négociations après des mois de crise, Aurélien Devernois.
Ils viennent pour mettre le couvert avant la véritable reprise des négociations, explique le député insoumis Bastien Lachaud. Car la table est désertée depuis des mois et il faut faire revenir les convives dans un cadre de négociations, quitte à innover, a expliqué Gérard Larcher au groupe de contact du Sénat sur la Nouvelle-Calédonie. Le président de la Chambre haute souhaite que toutes les options soient envisagées, y compris si elles sont inédites. Pour la sénatrice socialiste Corinne Narasiguin, les accords de Nouméa sont en effet dépassés. Il faut donc trouver un nouveau terrain d'entente et le Parlement aura forcément un rôle central avec un nécessaire projet de loi constitutionnelle en bout de discussion. Mais pour l'instant, le cadre est très bancal, s'inquiète Bastien Lachaud. Les élections provinciales ont certes été reportées, mais au plus tard, au mois de novembre 2025, or les négociations sur le corps électoral sont au point mort et selon le député LFI, il faut au moins 6 mois entre un accord et un scrutin. Sans compter l'épineux et urgent débat sur la reconstruction après les affrontements des derniers mois. Bref, il faut à la fois aller vite, mais sans brusquer les différentes parties. Une mission dont la responsabilité finale incombe à Michel Barnier, Matignon ayant officiellement repris le contrôle du dossier.
À la une également, la classe politique espagnole à nouveau conspuée hier lors d'une manifestation à Valence.
La ville de l'Est du pays, ravagée par des inondations le 29 octobre dernier. Il y a eu des négligences selon les plus de 100 000 000 manifestants qui demandent la démission du président du gouvernement régional Carlos Masson. Je rappelle que ces inondations ont fait au moins 220 morts dans le pays.
Une catastrophe climatique de plus. Dans le monde, il y en a eu à nouveau beaucoup en 2024.
Et ça coûte cher en termes de dégâts matériels et visiblement, ça ne va pas en s'améliorant. D'ici 2100, ça pourrait même amputer le PIB mondial d'un tiers, selon une nouvelle évaluation largement revue à la hausse par un rapport d'un groupe de banques centrales internationales. Un rapport alors que s'ouvrira demain à Bakou, en Azerbaïdjan, la COP29 sur le climat. Et Simon Rosé, le rendez-vous devrait justement être principalement consacré à ces questions financières.
Pour beaucoup d'observateurs, la littérature scientifique en économie est généralement jugée très optimiste quant aux conséquences du réchauffement climatique. Les prévisions utilisées jusqu'à présent anticipent en effet que pour un réchauffement de 3 degrés, les dégâts causés par les événements extrêmes ne s'élèveraient qu'à 2% du PIB mondial. Un chiffre grandement sous-estimé selon ce rapport qui réévalue le coût à un tiers de la production économique mondiale. En clair, en 2100, 33% des richesses produites sur la planète serviraient à payer les dégâts du réchauffement. Cette estimation est-elle aussi optimiste? Les auteurs en conviennent, elle ne couvre en effet qu'une partie du coût réel, puisqu'elle ne prend pas en compte les effets du changement climatique sur la création de richesses. Des secteurs comme l'agriculture seront par exemple lourdement touchés. La COP29 sur le climat débute ce lundi. Son objectif principal est d'augmenter l'enveloppe consacrée à aider les pays en développement, afin qu'ils financent la lutte contre le réchauffement climatique. L'ordre de grandeur aujourd'hui est de 100 milliards d'euros annuels. Il faudrait au moins multiplier cette somme par 10 pour permettre une transition juste et équitable. Le GIEC l'écrivait dans son dernier rapport. En la matière, agir coûtera bien moins cher que ne rien faire.
Précision de Simon Rosé.
Et puis le top départ aujourd'hui de la course de voile surnommée l'Everest des mers.
Et pour cause, plus de 24 000 miles, soit 45 000 km à parcourir en solitaire sans aucune aide extérieure possible. C'est ça le Vendée Globe. Il faudrait presque être fou. Eh bien, ils sont visiblement 40 à l'être cette année. 40 skippers qui prendront le départ des Sables d'Olonne dans l'ouest de la France à très exactement 13h02 heure locale et non pas 13h pile. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier de la plus large couverture médiatique possible et donc de laisser le temps aux différents journaux télévisés et radios de commencer leur édition pour pouvoir suivre le départ en direct. Alors avant cela, les 40 aventuriers doivent dire au revoir à leurs proches. Ils ne les reverront pas a priori avant au moins 2 mois si tout va bien. Et parmi les participants cette année, 2 athlètes handisport privés de leur avant-bras gauche. Il y a le chinois Jingkun Shu et puis il y a aussi le français Damien Seguin, ancien double médaillé d'or aux Jeux Paralympiques. À 45 ans, c'est déjà sa deuxième participation au Vendée Globe. Thomas de Saint-Léger l'a rencontré avant le grand départ.
Entre ces deux-là, c'est une longue histoire. Adversaire aux Jeux Paralympiques 2008, adversaire encore aujourd'hui, mais complice avant tout.
On a fait cette fameuse photo avec la mascotte du Vendée Globe, donc qui est un manchot. On a tagué voilà, les 3 manchots du Vendée Globe. Alors c'est ça aussi le handicap, il faut savoir à des moments le porter en dérision pour que ça devienne un peu plus banal.
Banal, Damien Seguin ne le sera jamais totalement. Né sans main gauche, simplement aidé d'une prothèse sur mesure, il est devenu en 2021 le premier marin handisport à boucler le Vendée Globe. Un véritable exploit. À bord, les manœuvres sont techniques, physiques, les conditions parfois très instables et pour lui, tout est plus compliqué.
Forcément, je ne fais pas les manœuvres avec une main de la même façon qu'un autre skipper qui a ses deux mains. C'est compliqué de répondre à la question comment je fais, parce que finalement absolument tout est différent, de la façon dont je vais mettre cette chaussure jusqu'à border une voile sur un Imoca qui fait 20 mètres de long. Le fait est que j'y arrive et que j'ai prouvé que en plus d'y arriver, j'arrivais à être performant.
7e de son premier Vendée Globe, Damien Seguin vise encore plus haut cette année. Ici, pas de catégorie, pas de classement à part. Les deux marins Andy sont dans la même course que les autres et ils sont pris très au sérieux. Louis Burton, l'un des favoris.
Je suis très admiratif et je pense qu'ils ont un petit supplément mental qui les rend redoutables en termes de performance.
Thomas de Saint-Léger, Les Sables d'Olonne, RFI.
Thomas de Saint-Léger, que l'on retrouvera en direct dans le journal de 9h, heure de Paris. Il sera à bord d'un bateau qui prendra le départ de la course. Aujourd'hui, j'en rappelle l'heure, 13h02, heure de Paris. Pour l'heure, il est 8h13, une heure de moins en temps universel.
Merci Gaëtan Plenet, à tout à l'heure, 7h13 en temps universel. La suite des RFI matin, c'est la revue de presse. Avec vous Clotilde Dumais et dans les hebdomadaires français ce week-end, du noir et du vert.
La couleur de l'espoir utilisée pour symboliser la nature à la veille de la COP29 qui débute demain en Azerbaïdjan. Une nouvelle conférence internationale sur le climat qui se déroule encore après Dubaï l'an dernier chez l'un des plus importants exportateurs d'hydrocarbures de la planète, remarque le Nouvel Obs. En 2024, l'or noir, le pétrole est toujours roi, constate l'hebdomadaire, et le monde toujours accro aux énergies fossiles. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie milite donc pour une décarbonation accélérée. Fatih Birol est devenu le poil à gratter des producteurs d'énergie fossile, indique le Nouvel Obs, qui consacre un article à celui qui a cassé le côté club de riches de l'AIE en l'ouvrant aux grands pays émergents. Le Vert remplit la couverture d'aujourd'hui en France Week-end pour un numéro entièrement consacré à l'environnement, avec notamment un reportage qui nous plonge dans la luxuriante forêt guyanaise, à la découverte des pratiques ancestrales des autochtones. Les sociétés amazoniennes pourraient nous réapprendre à préserver nos écosystèmes ou à recréer des relations plus saines entre faune, flore et humains, explique le chercheur Guillaume Audon. Même si là-bas aussi on vit un choc des générations, cultiver le coton pour tisser son hamac, s'en remettre au chaman en cas de maladie, de nombreuses coutumes sont aujourd'hui en décalage avec l'appel de la vie moderne, peut-on lire dans ce reportage.
Encore beaucoup de chemin à parcourir donc, et ça ne devrait pas s'arranger avec la réélection de Donald Trump aux États-Unis.
Ce sera l'éléphant dans la pièce de la COP29, écrit Libération. Dans son édition du week-end, le journal prévient, il va falloir faire avec un climato-sceptique assumé et fier de l'être. En matière d'environnement, Donald Trump a l'intention de mettre en place un système de destruction, s'inquiète dans Libération Laurence Toubiana, l'une des architectes de l'accord de Paris, que les États-Unis pourraient de nouveau quitter avec Donald Trump. En l'absence des Américains, Laurence Toubiana mise donc sur la Chine, qui a selon elle tout intérêt à ce que la diplomatie climatique continue de fonctionner pour des raisons économiques. Elle cite également le Brésil et l'Union européenne.
Sauf que l'Union européenne, elle, est aussi perturbée par le retour de Donald Trump.
La protection qu'apportaient les États-Unis n'est plus garantie, reconnaît Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, dans Le Parisien dimanche. La victoire de Donald Trump doit servir d'électrochoc, espère dans la Tribune dimanche le directeur général du Forum de Paris sur la paix qui s'ouvre demain. Selon Justin Weiss, le retour du républicain à la Maison-Blanche confirme une tendance du système international vers toujours plus de protectionnisme. Dans ce paysage, poursuit-il, reste la pauvre petite Europe dont le centre de gravité demeure le libre-échange. La planète tourne et l'Europe regarde, se désole Eric Scholl dans son édito dans l'Express en se demandant où sont donc passés les grands dirigeants d'hier. Le célèbre moteur franco-allemand est bon pour la casse, ajoute François-Olivier Gisbert dans Le Point, et rien ne l'a encore remplacé. Au moment où tous les cieux du monde se couvrent de nuages noirs, écrit-il, l'Europe a décidé de retourner avec les vaches regarder les trains qui passent.
Lui n'est d'ailleurs pas un Européen convaincu. Jordan Bardella en tournée dans les médias pour faire la publicité de son premier livre.
Ce que je cherche, titre inscrit sur une photo portrait du président du Rassemblement National en noir et blanc. Le Figaro Magazine publie des extraits de ces 324 pages. Jordan Bardella se présente comme un enfant des classes populaires, fils de migrants italiens, héritier de la méritocratie républicaine. J'ai voulu que les Français saisissent en profondeur ce que je pense et les raisons qui me poussent à le penser, explique Jordan Bardella dans le journal du dimanche. Le président du RN cherche à gommer son appartenance à l'extrême droite, analyse de son côté le Nouvel Obs, en se présentant plus libéral que Marine Le Pen, sans rien renier en réalité de ses obsessions identitaires et autoritaires. Libération est encore plus critique. Dans ce livre, au style si mauvais qu'on finit par penser qu'il l'a vraiment écrit tout seul, résume le journal, le dauphin de Marine Le Pen ne parvient guère à se découvrir.
On termine avec ses baskets blanches à lacets bleus et rouges, portées par un sourire qui a fait chavirer la France l'été dernier.
Celui d'Aurélie Aubert, en une du magazine L'Équipe. Les images de la championne paralympique de Boccia, éperdue d'extase sur son fauteuil une fois victorieuse, ont saisi les cœurs, rappelle le reportage. Depuis son titre, le quotidien d'Aurélie Aubert a explosé et son entraîneuse bénévole la trouve encore fatiguée, même si c'est une combattante, assure-t-elle. Orpheline, atteinte d'une paralysie cérébrale à cause d'un manque d'oxygène à la naissance, Aurélie Aubert peine à le reconnaître, mais oui, sa victoire à Paris l'été dernier, c'est une revanche. Dans cette vie pas très simple, elle assure que la boccia est sa bouée de sauvetage. Si l'on m'en prive, je pleure. Quand j'y joue, ma journée est belle. Passé les nombreuses sollicitations médiatiques, Aurélie Aubert espère donc pouvoir reprendre l'entraînement normalement et encore une fois porter les couleurs bleu, blanc, rouge, là aussi, signe d'espoir.
Clotilde Dumay pour la Revue de Presse. Merci beaucoup, très bon dimanche. Et comme chaque dimanche, un œil sur l'actualité politique en France, sur RFI, cette semaine, c'est l'élection présidentielle américaine qui a été au cœur de l'actualité. Donald Trump a battu Kamala Harris et va retourner à la Maison-Blanche. Une perspective à laquelle Emmanuel Macron s'est préparé en France. Bonjour Valérie Gasse.
Bonjour Julien.
Les deux hommes se connaissent bien. Comment s'annonce le retour de ce duo sur la scène internationale?
Il n'y a qu'à lire le message de félicitations à Donald Trump qu'Emmanuel Macron s'est empressé de publier sur X, le réseau social, pour avoir la tonalité de leur retrouvaille. Le président français écrit « Félicitations, président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes. » Sur la scène internationale, Emmanuel Macron fait partie des dirigeants qui ont déjà côtoyé Donald Trump durant son premier mandat. Il sait donc à quoi s'attendre, un avantage que le président français veut rentabiliser. Il a ainsi appelé Donald Trump très vite après l'annonce de sa victoire et son entourage a décrit leur conversation comme chaleureuse, marquée par l'antériorité de leur relation et leur proximité.
Emmanuel Macron pense donc connaître le mode d'emploi pour travailler avec Donald Trump?
En quelque sorte, l'idée c'est d'appréhender le retour de Donald Trump avec le pragmatisme de l'expérience, sans céder aux fantasmes sur sa personnalité et à une apparence d'irrationalité, comme le souligne une source diplomatique qui explique qu'avec Donald Trump, vous ne savez jamais comment ça va se terminer, alors vous êtes toujours sur vos gardes. À cet état d'alerte permanent, il faut ajouter une capacité à appréhender les négociations avec l'état d'esprit du nouveau président américain qui regarde tous les sujets de manière transactionnelle, autrement dit être capable de faire des deals, des accords et engager un rapport de force dans la virilité.
Mais Valérie, dans un rapport de force, justement, Emmanuel Macron a-t-il les armes pour résister à Donald Trump?
Eh bien, c'est toute la question. D'un côté, Donald Trump revient en force après un exploit électoral. De l'autre, Emmanuel Macron est affaibli depuis la dissolution et cherche comment se relancer. La proximité des deux présidents ne peut suffire à rééquilibrer un jeu si inégal, d'autant que cette stratégie basée sur le lien personnel déjà utilisé par Emmanuel Macron avait montré ses limites durant leur premier mandat respectif. Pour peser, il faut avoir du poids. Emmanuel Macron le sait et veut l'obtenir en mobilisant l'Europe derrière lui pour résister au bulldozer Trump. Il l'a dit de manière assez imagée à ses partenaires européens à Budapest cette semaine. Le monde est fait de carnivores et d'herbivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Dans ce schéma, Donald Trump est un carnivore. L'objectif d'Emmanuel Macron est de ne pas se laisser manger.
Valérie Gasse, chef du service politique d'RFI. Merci beaucoup. Et dans Chemin d'écriture aujourd'hui, le deuxième volet de notre chronique à la rencontre de l'autrice afro-américaine Ayanna Matisse. Avec son roman Les Égarés, son deuxième roman, une plongée dans les folles années 80, la fracture sociale, les Afro-Américains aux prises avec les suprémacistes. Bonjour Tirtan Karchandin.
Bonjour Julien Coquelrem, bonjour à tous et à toutes.
On s'attarde plus longuement aujourd'hui sur ce nouveau roman, Les Égarés, qui vient de paraître en traduction française aux éditions Gallmeister.
Vous vous en souvenez sans doute, Julien, dans notre première approche de ce nouvel opus d'Ayanna Matisse, dimanche dernier, nous avions parlé du prologue du roman en nous interrogeant sur la symbolique des noms propres dans les premières pages du livre. Nous y avions aussi fait la connaissance du protagoniste, l'adolescent Toussaint Wright, errant dans les rues de Philadelphie.
Nous étions alors dans les années 80.
Nous y sommes toujours, car le récit que raconte ce livre est campé dans ces années fatidiques lorsque, selon l'auteur, les graines d'un nouveau cycle de turbulences furent jetées. Le roman s'ouvre sur Toussaint se remémorant son arrivée à Philadelphie 3 ans auparavant, le passage dans des foyers miteux pour les sans-abri. Une majeure partie de ce récit est racontée en flashback par les personnages principaux du roman qui sont, outre Toussaint, sa mère Ava, qui souffre d'une dépression nerveuse, et sa grand-mère Datiès, qui, elle, vit à Bonaparte, un patelin dans l'Alabama, où elle est aux prises avec les suprémacistes blancs de plus en plus puissants. À travers les heures et malheurs de ces 3 générations, le roman raconte les luttes pour la survie des Africains américains dans l'Amérique contemporaine, où, au nom du progrès, les droits des minorités sont piétinés. Ayanna Matisse a bâti l'intrigue des Égarés en mêlant habilement les luttes sociales et leurs répercussions sur la psychologie des protagonistes. Les Égarés, c'est d'abord une saga familiale, comme l'explique Matisse.
Le passé, le présent et le futur sont incarnés dans ce roman par ces trois protagonistes. Mais Les Égarés n'est pas seulement un roman historique, c'est aussi une saga familiale. Ces personnages, Duchess, Ava et Toussaint, font partie d'une famille éclatée. Ils ne se connaissent plus vraiment et peinent à retrouver le chemin de la réconciliation. Leur méfiance les uns des autres se nourrit des 1000 kilomètres qui séparent l'Alabama de Philadelphie, mais aussi de leurs conflits anciens comme récents, ainsi que de leurs malentendus.
Une fiction familiale nourrie par l'histoire, telle semble être la marque de fabrique d'Ayana Matisse. Qui sont les Égarés, Tirtankar?
C'est une allusion au parcours historique des Africains américains dont le destin a été détourné par la traite. Ils sont les véritables protagonistes d'Ayana Matisse, comme elle l'a confié au micro de RFI.
Les personnages de mes romans sont pour l'essentiel des Africains américains. Ce sont souvent des femmes pauvres qui vivotent en marge de la société. Ce sont des êtres magiques, sources inépuisables de fascination pour moi, de chagrin aussi et de moult confusion. Mes personnages sont le prisme à travers lequel j'appréhende le monde pour tenter d'en saisir le dessin.
Ce saisissement du monde passe aussi par le retour aux utopies anciennes sur lequel se clôt ce bel et émouvant roman.
Les Égarés par Ayana Matisse aux éditions Gallmeister dans Chemin d'écriture aujourd'hui. Merci Tirtankar Chanda.
C'est moi qui vous remercie.
RFI Matin, bientôt 7h30, en temps universel, le retour de l'info africaine dans moins de 5 minutes. Et d'abord notre reportage culture avec l'une des figures majeures du pop art, moins connue que ses compatriotes Andy Warhol et Roy Lichtenstein, l'américain Tom Wesselman n'en est pas moins central dans l'histoire du mouvement et la fondation Louis Vuitton lui consacre à Paris une rétrospective à grande échelle. 150 œuvres réparties sur 4 étages, complétées par 35 artistes d'hier et d'aujourd'hui. Carmen Lunzmann.
Intégrer télévision et radio, bruit de moteur et téléphone, radiateur et cuvette de WC dans ses créations, c'est la marque de fabrique de Tom Wesselman.
Particulièrement surprenante, je dirais, les œuvres des années 70, c'est Standing Still Life, naturellement debout, puisque Wesselman représente un rouge à lèvres, une paire de lunettes, un petit collier, sauf que le rouge à lèvres qui est exposé dans nos salles mesure plus de 3 mètres de long. Et c'est une peinture.
Olivier Michelon, conservateur à la Fondation Louis Vuitton et commissaire associé à cette exposition autour du pop art né dans les années 50.
C'est un mouvement qui réunit des artistes qui s'intéressent aux produits de la vie quotidienne, qu'ils trouvent d'une beauté un peu stupéfiante. Et c'est vaste parce que ça va des stars de cinéma jusqu'aux conserves qu'on a dans nos placards.
Beaucoup de ces pièces, nous ne les avons encore jamais vues. S'enthousiasme Kate. Elle est venue avec son frère Lane et sa sœur Jenny pour découvrir toute l'amplitude du travail de leur père décédé il y a 20 ans.
Nous avons vraiment vécu avec ces œuvres.
La brosse à dents géante qui dépassait des étagères de peinture quand nous jouions enfants dans son atelier. C'était toujours magique que cette chose soit plus grande que nature.
Les objets de Tom Wesselman aux formes exubérantes et aux couleurs joyeuses vont jusqu'à dépasser le champ visuel. Comme cette paire de lunettes de 7 mètres de long, vision XXL, sans forcément porter de message grandiloquent.
Il avait un sens de l'humour très pince sans rire, mais il a toujours grincé des dents à l'idée d'un quelconque message. Notre père était plus concerné par les formes et les couleurs, l'impact visuel des œuvres, mais c'était des produits de son temps.
Le pop art a des thèmes qui sont la société de consommation, la célébrité, la production. C'est un miroir de la société, donc comme un miroir, parfois ça flatte, parfois ça gêne un peu.
Tel un miroir, l'exposition oppose les grands nus féminins sensuels des années 60 de Tom Wesselman à une série contemporaine de l'afro-américain Derek Adams. Dans ses super nudes, il réinvente l'archétype du super-héros blanc, hétéro, patriote, en homme noir, queer, exhibant ouvertement ses attributs.
Le pop est un mouvement large, d'autant plus qu'il est sans manifeste. C'est à la fois drôle, critique, un peu comme la culture populaire finalement. Quand la culture populaire est pratiquée à un certain niveau et avec une ironie et une distance, elle devient très très intelligente.
L'exposition Pop Forever consacrée à Tom Wesselmann à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et bientôt 7h30 en temps universel sur RFI.
Religion du monde. Véronique Guémard.
Qu'est-ce que le vaudou haïtien ? À l'occasion de l'exposition Zombie au musée du Quai Branly à Paris, nous remontons à ses racines africaines, au syncrétisme avec la religion catholique imposée par la force aux esclaves et avec les croyances des populations autochtones Taïnos, Caraïbes et Arawak.
Religion du monde, Véronique Guémard.
Tout à l'heure, à partir de 10h10 TU.
RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Hamid Mokadem qui publie « L'histoire dira si le sang des morts demeure vivant » ou comment un philosophe français d'origine algérienne ancré en Nouvelle-Calédonie revient sur la figure de Djoubeli Wea, l'assassin de l'indépendantiste kanak Jean-Marie Djibaou.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure à 15h10 TU et en podcast sur RFI.fr.